Je veux vous parler de Gagné Portes et Fenêtres. Vous pouvez les rejoindre au gagneportesetfenetres.com. Ils font l'installation des portes, la pose des rampes de verre, le remplacement de thermos, le calfeutrage. Bref, vous sentez de l'air qui passe par les portes, les fenêtres. Vous pensez que vous êtes dû pour changer vos fenêtres. Peut-être que Gagné Portes et Fenêtres peut vous faire sauver de l'argent en réparant ce qui est déjà là. Contactez-les et utilisez le code promo GELOZO pour obtenir 10 % de rabais sur le taux horaire de la main-d'œuvre.
Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on parle de Trudeau, mais pas Justin, Alexandre. Alexandre aime beaucoup la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont ces Trudeau-là avec les régimes communistes, sacrément? Ils sont l'enfer, ces gars-là.
Ils sont l'enfer.
Hey Frank, sérieusement, le contenu cette semaine m'a vraiment fait triper. Le prof Caron, son billet hier, écœurant. En plus, c'est un billet pré-vacances. Il ne sera pas là pendant 3 semaines. Fait que si vous aimez le prof Caron, c'est le temps d'aller regarder son dernier qui nous a pondu hier soir. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Vous le savez, il y a un débat qui s'en vient à grands pas entre Alexandre Cormier-Denis, Vincent Gelozo, sur la chaîne à Samuel Rasmussen, le blond modéré. On vous montrait hier au début du live du mercredi soir comment faire pour vous abonner à cette chaîne-là. Allez-y. Juste pendant le live hier, il y a une 50aine de personnes qui se sont abonnées. Fait que prenez le temps de le faire ce matin. Ça vaut réellement la peine. Joey Aubé, malheureusement, n'était pas là ce matin. Il ne sera pas là non plus la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver un remplaçant pour la semaine prochaine. Une nouvelle figure qu'on voudrait peut-être tester le matin. Fait qu'il faut que je demande à cette personne-là si elle veut remplacer Joey la semaine prochaine. Fait que c'est un peu ça pour nos petites annonces pour le podcast. Le dernier de la semaine, on va vous parler d'Alexandre Trudeau, mais avant.
Avant. C'est bien important.
There's so much potential. We will get the job done. For beauty and for devastation.
Écoute, je vais te donner 2 choix de victimes du jour. On aurait eu une troisième, on l'a passé hier dans le live avec ce cher Olivier.
Magique.
Avec ce cher Olivier Niquet. Donc, tu as le choix, une commune auto qui sent la pisse ou... juste ça, on dirait que c'est...
Je sens pas le besoin de lire l'article.
Non, c'est ça. Non, c'est parce qu'il y a un nouveau journal. Ben, je ne sais pas si c'est nouveau, mais pour moi, il est nouveau. Je ne le connaissais pas avant. Le journal s'appelle 24 heures. Connaissez-vous?
Ah, mais non, ça existe depuis longtemps. Ça.
Hey, mais en tout cas, eux autres sont virés sur le crin. J'ai checké leur page un peu. C'est des histoires de gens avec des thérapies de conversion. C'est écran inclusif. La moitié du monde a l'air non-binaire ou non-genré ou non-sexualisé.
Un journal écran inclusif, là. Oubliez ça. Là.
Ouais, oubliez ça. C'est ça. Ça m'avait fait rire. L'histoire de la commune auto qui sent la pisse de chat, là. Ça, c'est quand même intense. Et sinon, on a le très succulent Simon Jolin Barrette.
Non, c'est sûr, c'est lui que je veux.
OK, c'est lui que tu veux, bon, parfait.
Non, oui, Simon. Simon Autain Barrette que tu...
Oui, ben ça, c'est, okay. C'est son vrai nom, en fait.
Okay.
Donc, Simon Autain Barrette veut faire bannir l'épithète brouillon en chambre.
Attends, c'est qui s'est offusqué? Hey!
Check la face.
J'adore la photo!
T'as-tu vu l'autre à côté qui...
On pense encore. On dirait qu'il est en débat avec Éric Duhem.
Oh oui, non, il aime pas ça. Il aime pas ça, ça paraît. Donc, irrité par les colibets de l'opposition, le gouvernement Legault veut faire bannir l'épithète brouillon en chambre.
Les colibets, c'est quoi? Le journaliste joue au même jeu que Geneviève Guilbeault hier?
Ouais, c'est ça. L'opposition libérale revient constamment avec ce qualificatif peu élogieux pour dépeindre les caquistes. Mais mardi, le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin Barrette, en a eu assez.
Monsieur le Président, en reprenant le terme « brouillon », le Parti libéral recycle des accusations lancées par son ancien chef, Philippe Couillard.
C'est pour ça que je voulais Simon Jolimbert. Je savais que tu allais le limiter.
Il y a une intention manifeste de la part de l'opposition officielle d'utiliser un terme pour l'utiliser de façon qui est blessante.
A-t-il rappelé, a-t-il plaidé en rappelant qu'on ne peut avoir recours à des propos blessants en chambre? Hey, c'est pas un gouvernement, ça, qui nous faisait des points de presse pour dire que GND, c'est un woke?
Oui.
OK. Eux autres sont blessés par le fait de se faire dire qu'ils sont brouillons.
Oui.
Hey, vous avez intérêt à vous épaissir le cuir un peu. Excuse-moi, là, mais quand tu fourres une région au complet, te faire dire après que t'es brouillon, à mon avis, c'est un très moindre mal.
Mm-hmm.
Tu sais, si toi, mettons que t'arrives chez vous, mettons que ta blonde arrive chez vous, puis elle te surprend au lit avec quelqu'un d'autre, puis qu'elle te dit « Yann, c'est très brouillon ce que tu viens de faire, je trouve que t'es pas mal chanceux. Hein. »
Tu penses que ça mériterait plus un coup de sacoche?
Ouais, ou genre, regarde, la porte est là, puis tu trouveras une place pour coucher à soir. Normalement, c'est ça qui arrive dans un cas de même. Eux autres, ils ont brouillon. Tu sais, le Parti libéral est fin, là. Traiter ce gouvernement-là de brouillon, à mon avis, Hey, vous êtes brouillon. Ben oui, vous êtes brouillon. Ben, d'ailleurs, la preuve qu'ils sont brouillons, avant qu'on vienne à Trudeau, c'était un autre sujet. Bon article, cette fois, il faut que je le donne, du Média neutre et indépendant, Radio-Canada, qui nous dévoile en fait un secret de polichinelle, mais c'est toujours le fun d'avoir des preuves. Dès juin 2022, là, c'est, regarde, il y en a eu juin, juillet, août, septembre, et l'élection est en octobre.
Qu'est-ce qu'elle nous disait, Geneviève Guilbeault?
Ben, qu'est-ce qu'ils nous disaient, les ministres caquistes, à l'époque? Oui, 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 le troisième lien, c'est un engagement ferme. Il va y avoir un troisième lien autoritier, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et voici ce qu'on apprend.
Mais attends un peu. Geneviève Guilbeault nous a dit récemment, là,
ouais,
elle nous a dit que vice-première ministre, là, jamais qu'il a été question de mettre fin au troisième lien autoroutier avant la campagne électorale. Jamais!
Non, et elle nous a dit qu'elle l'a appris. Ben, elle a commencé par dire qu'elle l'a appris 2 semaines avant l'annonce qu'elle a faite, qu'il y avait les nouveaux résultats. Après ça, elle nous a dit que c'était en janvier. Il y a comme une marge entre les deux. Et là, voici ce que Radio-Canada sort. Dès juin 2022, un troisième lien réservé au transport collectif était en analyse.
C'est des menteurs.
Non, c'est des menteurs. 2 mois avant le déclenchement de la dernière campagne électorale au Québec, le ministère des Transports a commandé. Excuse-moi, Yann, tu ne peux pas commander une analyse et pas être au courant que c'est ça que tu as envie de faire.
C'est des menteurs.
A commandé une analyse pour un troisième lien réservé exclusivement au transport collectif, a constaté Radio-Canada. Cette information, qui se trouve dans l'une des études récemment rendues publiques par le gouvernement, risque de soulever bien des questions. Depuis l'abandon du projet de tube bicurieux il y a 2 semaines, les élus de la coalition Avenir Québec répètent qu'ils n'avaient pas anticipé ce recul. Or, le ministère des Transports avait demandé à ce que soient identifiées formellement des solutions additionnelles dès l'été dernier. Apprend-on dans
menteurs.
Le rapport des esquisses préliminaires des différentes options et analyses multicritères de mon cul et pas tant de choses. Le 30 juin 2022, c'est-à-dire 2 mois avant le déclenchement des élections, le ministère des Transports avait mandaté le consortium Union des Rives pour qu'il produise des analyses d'options uniquement transport collectif.
C'est des menteurs.
François Bonnardel savait-il? Le ministère savait que les équipes du ministère effectuaient différentes analyses pour documenter le projet choisi et ses comparables, indique simplement son attaché de presse, Roxane Bourque, dans une déclaration écrite. On réitère que la décision du projet de Bitube était la décision officielle et qu'il était attendu que de nombreuses études et analyses seraient requises pour faire avancer ce projet d'envergure. Hey, c'est-tu de la langue de bois, ça?
C'est des menteurs.
Ça, c'est de la langue de bois solide. Les différentes requêtes effectuées auprès du mandataire avaient notamment pour but d'améliorer les connaissances et de mieux documenter les diverses études en cours. Elles prennent vraiment des caves à ce monde-là, là.
Dès lors que le tunnel de transport en commun n'est plus lié à un tunnel autoroutier, ce tube doit être autonome et doit remplir toutes les fonctions, notamment celles de sécurité, ventilation, évacuation et accès de secours, peut-on lire dans le rapport. D'après le consortium, un seul tunnel réservé au transport collectif est faisable, mais les conditions pour le réaliser sont différentes de celles pour réaliser le bitube. Écoute, c'est eux qui ont demandé de faire cette étude-là. Ils le savaient donc, et donc ce sont des menteurs. Je ne dis pas que Bernard Drinville est au courant. Il doit sûrement pas être au courant de ça.
Non, lui, c'est fait entuber.
L'autre qui est dans un souper spaghetti, il ne savait probablement pas non plus. Puis l'autre...
Madame qui fait le tour de la planète, elle n'était pas au courant non plus.
Non, c'est ça. Eux, hey, ça, moi, sérieusement, je ne comprends pas comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas sacré le camp du gouvernement.
Écoute, parce qu'ils n'ont pas de colonne. Bernard Drinville, il s'est fait sacrer en dessous du bus par le PQ. Puis là, il vient de se faire sacrer en avant de l'autobus par la CAQ. Puis il est encore là. Puis ah, ben là, ça va le prendre avant 2026. Là. Man, t'étais vraiment mieux à radio, Bernard. Hey, mais... Tu faisais pas chier de même.
Yann, comment tu réagirais, toi, si. Imagine que t'as une job, tu parles en avant d'un micro, puis tu t'es payé à peu près 500 000 par année. Je te dis, je viens de voir, je te dis, hey, j'ai besoin de toi, Yann. Écoute, je le sais là, que tu as donné, là, mais le Québec a besoin de toi. Je le sais que tu vas avoir juste à peu près 130, 160 000 par année, mais regarde, je te promets, tu vas être ministre, puis tu vas aller dans une région qu'on pense que tu peux gagner, c'est Lévis. J'ai besoin de toi, il ne faut pas que les conservateurs passent. Il y a juste un affaire, c'est qu'on a promis, je le sais que tu étais contre quand tu étais à la radio, mais on a promis un gros tunnel avec des chars, puis là, il faut que tu deviennes Monsieur Tunnel. Ouais, mais t'as peu, j'ai jamais. Ouais, mais moi, là, je vais avoir de l'air d'un con dire le contraire de ce que j'ai dit.
Ouais, mais Bernard, tu sais, je m'en viens fatigué. Là. Il me reste peut-être un an ou deux
dans la politique. Là. Fait que là, tu t'en vas, les quételles en l'air. Ouais, 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 tout le monde qui vient ici le sait. Lâchez-moi avec les GAS. Et six mois après, on annonce. Ah, finalement, c'était de la merde, ce projet-là. Puis, sais-tu quoi? T'apprends toi-même en lisant dans le journal que ton propre ton propre premier ministre qui est venu te convaincre, très probablement le savait, qui est en train de faire des études sur comment dropper ce projet-là pour finalement faire un espèce de tunnel par rapport avec des vélos dedans.
Puis, sais-tu quoi qui est le pire? T'apprends ça tout de suite après que tu lis ton premier ministre dans les médias qui dit qu'il y en a encore pour 10 ans.
C'est-tu que c'est drôle? Mais sérieusement, moi, si je suis à sa place de lui, je gagne garder les ploucs. Là. Tu rappelles le gars à Cogeco, là, tu dis garde, chose, il s'en va. Là, comment il s'appelle?
Paul Arcaq.
Il s'en va. Il s'en va. Si je démissionne, là, êtes-vous intéressé? Oh oui, on te reprend. Parfait, merci. Hey, François,
quoi?
Je décolisse. Merci, bonsoir.
En plus, il est pogné les pieds dans les plats avec son enseignante qui chiale après des enfants de 6 ans.
Ils ont donné le pire ministère au monde.
Hey, chose, ah ouais, va te péter les dents, mon Bernie.
Le gratteux de guitare, là, Eddie Van Roberge. Dois-tu être content, lui, d'être rendu aux patentes inter-cariboutales? Puis. Comment ça s'appelle son ministère, lui, là? Le ministère de.
Je sais pas, il y a de la langue française. C'est un des trois ministères qui défend la langue française.
Hey, le gars, il est rendu qui fait des pubs sur un moineau qui parle en anglais. Là. Hey, sérieusement, ça doit être beaucoup plus le fun puis beaucoup moins stressant ça que de gérer des tireuses d'agenda puis des profs à moitié en breakdown à cause des élèves tannants qui crient puis que ça finit dans le journal. Puis. À tous les jours, il y a une controverse. Quand c'est pas du monde qui veut prier dans la classe, c'est une prof qui crie.
Écoute, il y avait trois gros recrutements de la CAQ dans cette élection-là. Il y a la fille dans le coin de Sherbrooke qui a perdu, qui s'est ramassée déléguée à Paris à 250 000 par année.
Oui, Caroline Chose.
Saint-Hilaire.
Oui.
Il y a Martine Biron qui ramasse un ministère qui fait faire le tour du monde en 60 jours. Il a enfin, elle a fait le trip de sa vie. Et de Bernie.
Ouais, puis elle, on se rend compte qu'elle est quasiment mieux en faisant le tour du monde. Ben, je regarde ses propositions. Là. Première proposition, elle veut faire une loi sur l'avortement.
Mm-hmm.
Là, je regardais même des intervenants full de gauche, comme comment il s'appelle, Frédéric Bérard, c'est ça?
Ouais.
Lui, le gars, c'est un prof de droit, genre en droit de la Constitution, puis tout, puis il dit c'est de la bullshit, là. Il dit une loi de même n'a aucune valeur légale au Canada, là. T'sais, c'est un dossier de compétence fédérale, même si vous... Peu importe ce que vous allez faire, j'ai que de la parure. Et là, hier... Là, elle disait qu'elle voulait réformer le code criminel pour faire rentrer un féminicide dedans.
C'est quoi, tu vas avoir plus d'années de prison parce que t'as tué une femme qu'un homme? Là? C'est là que vous voulez aller? Ben non, ce sera pas ça. C'est juste pour mettre un mot pour avoir l'air d'être QS un peu. Là.
Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'essaye de comprendre leur affaire. Une journée, homme puis femme, ça n'existe plus, puis le lendemain, il faut mettre féminicide. Là, c'est quoi votre affaire, là?
C'est quoi quand on va tuer un homme qui s'identifiait comme une femme? Là?
Ouais, c'est un féminicide, ça, ou c'est...
On va vraiment parler de ça en nombre, là, pour vrai, là?
Ben, c'est sûr que c'est là qu'on s'en va, là.
On y repaye-tu un voyage au Japon?
Ouais, je pense que c'est pour ça que je te dis, ouais, en voyage, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. écoute, Justin a un frère. Ben, attends un peu. Commençons par le début. Parce que tu sais que la Chine, c'est une histoire de famille. L'amour des Trudeau pour la Chine, c'est une histoire de famille. Pierre-Elliott Trudeau a publié dans les années 60 un petit bouquin qui s'appelle « Deux innocents en Chine ». J'adore le titre. Et c'est l'histoire de lui et son chum Hébert qui s'en vont en Chine rouge. Et
il trippait communiste popé, Pierre-Elliott, pareil.
Oui, oh, ben lui, il était ami de tous les régimes communistes qui n'avaient pas. Il trippait sur Castro, il trippait sa Chine. C'est quand même assez spectaculaire. Je comprends là, la révolution en Chine, puis tout, ça a été un événement marquant. Là. Je comprends que ça peut intriguer, là. Mais c'est assez spécial pareil. Et donc, c'est une histoire de famille. On se rappelle de Justin Trudeau qui disait en quoi, 2013 ou quelque chose comme ça, qu'il y avait une admiration pour la dictature chinoise parce que ça lui permettait de faire des grands changements de société rapidement, ce qu'on ne peut pas faire dans une démocratie. Et là, on a...
Hey, mais juste de dire ça, man, faut-tu rien comprendre? T'sais, nous autres, on va arriver, on va lire des affaires sur la naissance de la démocratie en Angleterre, Magna Carta, puis des choses comme ça. Puis de voir comment la liberté, c'est quelque chose qui a été difficile à implanter.
Ben oui, ben
sortir oui. Des régimes féodales, des grands seigneurs, toutes ces affaires-là, c'était quelque chose de tough réellement, d'implanter le système parlementaire, la joute démocratique. C'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est lourd et qui est fragile. Quand tu lis un peu sur ça, là, tu comprends tous ces aspects-là. De voir du monde triper sur des régimes de dictateurs comme ça, Colin, man.
Ah non, c'est capoté.
Faut pas que tu aies de culture. Faut pas que tu aies de culture.
Pourtant, c'est pas une famille de deux de carreaux, ça, là. Je veux dire, il était lettré, Pierre-Elliott Trudeau, c'était un lettré, les autres ont été à l'université. Tu sais, c'est pas genre du monde qui sont dénués d'éducation puis de formation, là. Mais c'est ça pareil. Et là, voici ce qu'on nous dit. Le frère de Justin Trudeau ne cache pas son admiration, son affection pour la Chine. En plus d'avoir occupé des fonctions à la Fondation Trudeau, il a publié un livre élogieux sur la Chine en 2016. Un barbare en Chine nouvelle.
Mais attends un peu. Ça, c'est publié en 2016. Pourquoi vous nous parlez de ça en 2023?
Ben là, parce que l'attention est sur lui en ce moment, j'imagine. Le frère du premier ministre Justin Trudeau, Alexandre Trudeau, qui doit témoigner aujourd'hui à Ottawa sur l'ingérence étrangère et la Fondation Trudeau, on va y venir après, est un grand admirateur de la Chine actuelle où il a effectué de nombreux séjours. En plus d'occuper des fonctions, il a publié un livre qui relate certaines de ses expériences en Chine. Le livre a été réédité en 2020 sous le titre « En Chine ». Alexandre y dresse un portrait à plus d'un égard admiratif de la Chine. « Ce dont je suis à peu près sûr, ouvrez les guillemets, c'est que ça n'irait pas mieux en calquant bêtement le régime politique d'un autre pays », écrit-il notamment à propos du régime en place et en réponse à sa traductrice chinoise qui lui dit mépriser et redouter le Parti communiste. Écoute, la fille qui traduit son livre en chinois, elle est anti... c'est une rebelle du régime, autrement dit. Puis lui, il essaie de la convaincre. Non, c'est pas si pire que ça, là. Ça serait pas mieux si vous aviez autre chose. C'est capoté, là. Ça, c'est comme les communistes québécois qui s'en vont à Cuba dire aux Cubains que c'est donc tellement extraordinaire, le régime. Là.
Mais c'est plus que de la naïveté. Tu sais, je me rappelle quand on avait fait dans le parti Patreon l'analyse du texte de Jacques Langteau à La Havane. Puis après ça, on avait eu Alexander qui était venu commenter ça. Il a vraiment fait un bon podcast avec nous autres, Alexander. Puis moi, ce que je retrouvais dans ces affaires-là, c'est de dire, vous êtes donc ben cave. Vous allez dans un régime autoritaire, antidémocratique, parti unique, communiste, hein? Et vous revenez de là tout ébloui puis dire, Caroline, ils réussissent de belles choses. Man, t'avais pas la liberté d'aller où tu voulais. T'étais suivi par quelqu'un en tout temps.
Ouais, puis surtout, il y a une autre affaire là-dedans, c'est que t'étais libre de revenir ici.
Aussi.
Contrairement à ceux qui vivent là-bas.
Tu sais, tu dis, ah, crime, mais j'ai fait le tour, puis ça n'a pas été... C'est comme si tu te faisais une idée si Cuba, c'est un pays le fun à aller en te basant ses resorts. Dis, crime, Cuba, c'est une belle place. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde boit de l'alcool, puis... Ouais, mais Chris, c'est un resort de touristes, le cave. C'est la vraie population qui souffre du communisme n'est pas là, là. Là, les plus sophistiqués, ils vont à La Havane, puis disent, ah, ben, à La Havane, c'est quand même pas pire. T'es à côté du régime.
Hey, écoute bien ça. Il ne semble pas s'émouvoir du fait que le South China Morning Post, un journal établi à Hong Kong, soit un quotidien de moins en moins critique du pouvoir de Pékin. Il rend hommage au célèbre artiste Yai Weiwei, mais il lui fait valoir que la Chine n'a jamais connu la démocratie ni les droits individuels. Ouvrez les guillemets, je le pousse à modérer sa critique des réalités chinoises et à considérer les résultats plutôt que les principes. Le Parti communiste chinois, malgré ses torts, demeure solide. Il n'y aura pas de révolution, seulement des transformations, prononce-t-il plus loin.
Hey, mais ces gars-là, là, si c'est vraiment leur philosophie de vie puis tout ça, là, tu veux garder ça le plus loin possible d'une démocratie libérale, là?
Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, a lu le livre et le juge superficiel à bien des égards. Selon l'expert, il s'est permis de se demander si Alexandre Trudeau n'a pas été instrumentalisé par la Chine. Les Chinois sont passés maîtres dans l'art d'influencer les gens. Alexandre Trudeau a été bien traité quand il est allé en Chine. Je mets ça dans la catégorie des idiots utiles, avance-t-il. Je ne serais pas surpris qu'il ait eu des contacts avec le consulat chinois, surtout après qu'il ait écrit un livre. Je pense que les Chinois ont dû vouloir l'encenser, explique-t-il.
C'est sûr. C'est pas juste naïf, c'est niais, là. Tu sais, c'est comme Dennis Rodman quand il va en Corée du Nord puis qu'il revient de là puis il dit « Crime, c'est une belle place. » Tu sais, man, écoute, t'as toujours mangé à ta faim dans ta vie, là. Comment tu fais pour dire qu'une place que la majorité du peuple ne mange pas à sa faim, c'est une bonne place?
Il m'arrive encore de défendre le Parti communiste chinois. Je ne crois pas que la Chine aurait fait autant de chemin et aussi rapidement sans l'unité et la puissance organisationnelle qui lui ont été imposées.
Ces gars-là se voient à tête d'un gouvernement autoritaire puis ils trippent. Ils ont un semi-croquant quand ils s'imaginent ça.
Dans le fond, tous les États tendent au corporatisme. Même les États démocratiques finissent par faire en sorte que le pouvoir politique de l'individu soit de plus en plus illusoire.
C'est-tu du complotiste, ça?
Ben, es-tu en train de dire qu'il aime ça, cette affaire-là, ou il décrit, non? J'aime à croire que si j'étais chinois, j'aurais moi aussi manifesté sur la place publique et j'aurais fait face aux blindés pour défendre ma liberté. Cela dit, je vois les bienfaits que la stabilité a apporté à la Chine depuis Tiananmen.
Ah!
Et là, écoute bien, c'était juste avant de se présenter parce qu'il était convié au Parlement, ce monsieur-là. Et j'essaie de te retrouver.
Parce que lui, il était à la tête de la Fondation Trudeau.
Bien sûr, bien sûr. Et là, lui, il dit, c'est de la faute des journalistes, ça, cette affaire-là. L'histoire qu'on reçoit des dons de la Chine, puis que l'Institut Confucius, puis toute la patente, toutes les histoires. Alexandre Trudeau accuse le mauvais journalisme d'avoir alimenté la tourmente. Alexandre Trudeau impute la tourmente à la Fondation Pierre-Elliott Trudeau au mauvais journalisme qu'il a associé à une opération d'ingérence chinoise et soutient que l'ex-PDG a amplifié l'affaire en colportant des mensonges auprès de la direction de l'organisation.
On n'aurait pas été ici si la présidente n'avait pas tenu à faire circuler de la désinformation, a accusé M. Trudeau, le frère du premier ministre, devant un comité parlementaire mercredi. Hey, puis, man, garde-y la face, là. On dirait le sosie de son frère. C'est l'enfer. L'enfer. Check-y la face.
Aïe, aïe. Je ne l'avais jamais vu.
Il n'y a pas de doute possible, c'est son vrai frère. Il n'y a, a aucun doute possible. Et,
c'est le fils à Margaret, lui aussi.
Il y a des bonnes chances. Je ne sais pas si c'est aussi le fils de Keith Richard, là, mais ça, c'est un autre, c'est un autre débat.
Hey, mais ça scrape notre théorie, ça.
Ouais, c'est ça.
Colin, nous autres, on n'est pas dans la gang qui dit que c'était Fidel Castro, le père à Justin. Nous autres, on avait une meilleure théorie, c'était celle de Keith Richards.
Ouais, c'est ça.
Et d'autres fitaient plus, je pense.
Ouais. Faut écouter un vieux podcast du trio pour cette histoire.
On avait-tu déliré?
Ouais, c'est quand même. Je me souviens plus si c'était dans le paywall ou pas, là, mais en tout cas.
Peu importe.
son témoignage très attendu, donc celui d'Alexandre Trudeau, a contredit à plusieurs reprises celui de Pascal Fournier, ancienne PDG démissionnaire de la Fondation Trudeau, qui trouvait louche un don de 140 000 $ fait par deux hommes d'affaires chinois en 2016. Elle a fait état la semaine dernière de différentes irrégularités relatives à ce don, comme des consignes reçues pour l'expédition de la documentation en Chine. C'est pour cela que j'aurais voulu que la vérificatrice générale produise un audit. Il n'y a absolument rien de problématique dans tout ce dossier, a-t-il lâché en référence au récent refus de la vérificatrice indépendante de se pencher sur l'affaire. Aussi connu pour son surnom Sacha, Alexandre Trudeau explique auprès de la Fondation qu'il porte, qui porte son, le nom de son père depuis la mort de ce dernier. Il y a plus de 20 ans, il a quitté son conseil d'administration en septembre 2020, mais est toujours membre et représentant familial de l'organisation qui se consacre notamment à verser des bourses doctorales et à fournir du mentorat. Et là, c'est ça qui est le plus drôle. Là. En février dernier, le Globe and Mail, tout ce qu'on a parlé nous autres dans le podcast, rapportait que le fameux don s'inscrivait dans une opération d'influence étrangère orchestrée par Pékin, selon des sources anonymes dans le renseignement auquel Le Devoir n'a pas eu accès. M. Trudeau a qualifié ce reportage de faux, d'inexact et de mauvais journalisme. C'est pas ça, là, attaquer les médias et remettre en cause leur crédibilité, c'est pas juste Pierre Poilievre et les conservateurs qui font ça. Ah, tiens donc, c'est aussi des libéraux quand ils sont pognés dans le coin. Ah.
On prend les deux clowns, là, Justin et Alexandre. On les amène aux États-Unis. Justin est président, puis Alexandre gère une fondation aux États-Unis. Puis les mêmes scandales sortent.
Hey. Ils ont voulu impeacher Trump pour un coup de téléphone à Zelensky. Là. Où il demandait, ou soi-disant, il aurait demandé, « Ouais, t'as-tu des infos, toi, sur Hunter Biden? » Et cite, on a un premier ministre avec une fondation dont son frère était le boss. Ça reçoit des dons étrangers de la Chine en échange de toutes sortes de patentes plus ou moins « weird ».
L'encens, le régime dictatorial.
Ça l'encens. Ben oui, c'est une famille qui encense. Le père, le frère, puis l'autre frère, puis les deux fils, encense le régime chinois, puis ça...
Comment ça a fait pour se ramasser à la tête du pays?
Ah, pas l'air que c'est tant dérangeant que ça. Et là, le plus drôle, c'est que sa justification à Trudeau est quand même assez. À Alexandre Trudeau est quand même assez capoté. Là. Il dit non, non, c'est pas eux qui veulent nous influencer, c'est nous qui voulons les influencer. Hey, le gars se prend pas pour un 7-up dégazé. Lui, il pense que. Lui, il pense que sa fondation, elle va tout changer, puis dans le fond, la Chine va devenir plus respectueuse des droits à cause d'eux, puis tout ça. Le Canada, écoute bien ça, le Canada peut faire comprendre aux Chinois, aux chercheurs chinois et à la population chinoise ce qu'est le Canada. Les Chinois disaient autrefois, ils ne le disent plus, « Je pense que les Canadiens sont des Occidentaux auxquels on peut faire confiance », a-t-il expliqué au sujet de sa perspective sur ce pays. « Je ne suis pas un apologiste du gouvernement communiste chinois. Premièrement, il n'est plus communiste, c'est un gouvernement impérial. » Comme justification, j'ai quand même vu mieux.
Non, mais hey, sérieux, là.
Non, mais c'est une joke, là.
Sont-tu brillants pour vrai, ces gens-là, ou ils nous trollent?
Écoute, bonne question.
On se fait troller, là. Je veux dire, oh, ça se fait pas, là.
Puis là, ben, les gens ont peut-être pas suivi, puis on va s'en aller sur Patreon dans quelques instants, là. Mais il y a un député conservateur. Son prénom, je me souviens pas, mais c'est un... Voilà.
Chung?
MP Chung, appelons-le comme ça, parce que c'est son titre en chambre. Lui, sa famille, lui, c'était d'origine chinoise, sa famille a reçu des menaces en Chine. Le gouvernement aurait été au courant, mais ils lui ont pas jugé bon de lui dire. Et là, dans toute cette saga-là, sur l'ingérence chinoise, ben là, Trudeau dit que c'est de la faute du SCRS. Le SCRS est responsable de la décision de ne pas avoir informé le gouvernement ou le député du ciblage de la Chine, selon Trudeau. Le premier ministre a déclaré que le service d'espionnage du Canada était responsable de la décision de ne pas informer le député conservateur Michael Chung, on a son nom ici, que lui et sa famille étaient ciblés par le gouvernement chinois après avoir dirigé un effort pour une motion parlementaire condamnant le traitement des Ouïghours par Pékin comme un génocide. Le premier ministre a déclaré mercredi aux médias qu'il n'était pas au courant du ciblage de Chung jusqu'à ce que le Globe and Mail rapporte lundi une évaluation top secrète de 2021 par le Service canadien du renseignement de sécurité. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a également...
C'est le gars qui mentait un petit peu souvent en commission des camionneurs. Hein?
Ouais, exact. A également déclaré mercredi au journal qu'il n'avait appris cette menace contre M. Chung que lundi dans le journal.
Marco, t'as plus de crédibilité. Il n'y a plus personne qui croit quoi que ce soit quand tu parles. Pas être plate, là, mais il n'y a plus personne qui croit jamais rien de ce gars-là. Là.
Mais...
C'est ça, Marco?
Ouais, Marco.
Ouais, Marco, je te crois plus. C'est fini. Je te crois plus. T'as eu ta chance.
Ah non, regarde, c'est n'importe quoi. Et là, Justin Trudeau était questionné en chambre, mais il était pas là. Il était pas là à ce moment-là. Il y avait autre chose à faire. Mohamed Hussein, attaché de presse du premier ministre, a déclaré que c'était dû à un conflit d'horaire. Il n'a pas révélé quels événements étaient en conflit avec la période de questions. Richard Fadden, ancien directeur du SCRS, qui a été conseiller à la sécurité nationale de M. Trudeau et ancien premier ministre Stephen Harper, a déclaré qu'à tout le moins, un tel document, qui était marqué top secret aux yeux des Canadiens uniquement, aurait été envoyé à 3 ou 4 autres endroits. Je sais pas,
on
là,
fait
mais...
Ticoune,
et c'est bol.
On fait ticoune. Hey, on est... c'est pas demain matin qu'on va créer un roman d'espionnage ou de contre-espionnage canadien. On est des ticounes comme c'est pas possible.
Ce gouvernement-là, je veux dire, c'est une joke, là. C'est...
Comment il a fait pour se ramasser premier ministre?
Mais c'est Kumbaya, tu sais, le kayakiste avec les bouts de couleur qui chante. L'autre à côté, il y a le frère apologétiste de la Chine communiste. Non, mais j'en fais l'apologie, mais il faut juste dire quand même qu'ils ne sont pas communistes, ils sont juste impérialistes, là, arrêtez. Là. Voyons, mais c'est... Et ça, c'est comme un gars qui te dit « Hey, je suis pas nazi, je suis fasciste, OK? » Là, t'es comme « Ouais, c'est... » Comme justification, j'ai quand même vu mieux. Là. C'est vraiment... C'est fucky, leur affaire. Là. Honnêtement, moi, je comprends pas comment ça se fait. Tu sais, je veux dire, tu l'as bien dit, là, si c'était Macron ou Trump ou peu importe, ou un autre dirigeant qui avait d'un autre pays qui avait cette patente... Hey, ils ont forcé la démission de Boris Johnson parce que pendant le confinement, il a reçu du monde à souper chez eux. Là. C'était ça, la grosse crise. Là. Ça a fait une crise sans bon sens en... Ici, c'est comme s'il n'y a pas d'élu qui est imputable de rien. Ce gouvernement-là, la famille au complet est à quatre pattes devant la Chine. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas de notre faute. C'est l'RCR.
Mais les nouvelles ne se rendent pas au monde. Ou les gens ne réalisent pas l'impact que ça a. Les gens réalisent-tu c'est quoi la Chine réellement? C'est quoi les objectifs, les ambitions de la Chine dans les prochaines années?
Puis, tu sais, c'est grave, là. Parce que juste pour faire un wrap-up aux gens, il y a le premier ministre qui était membre lui-même et sa famille est membre d'une fondation qui porte le nom de son père. Cette fondation-là reçoit des dons en provenance de Chine et en parallèle de ça, on a des membres du gouvernement, ben, du Parlement élu. Ils reçoivent des menaces
en
provenance de ce pays-là.
On peut-tu geler le compte de banque à Alexandre Trudeau demain matin?
Ouais.
C'est parce qu'il y a de l'ingérence étrangère, puis il fait partie d'un organisme qui recevait de l'argent de la Chine. Peux-tu geler son compte de banque?
Ouais, Marco Mendicino, il peut-tu déclarer
l'état d'urgence?
L'état d'urgence pour geler le compte à Alexandre Trudeau.
Ouais. On peut-tu faire ça? Parce que pour des simples camionneurs, on l'a fait. Parce qu'il y avait un GoFundMe, puis il y aurait eu des Américains qui auraient mis de l'argent dans un GoFundMe.
Ouais, très bon point. C'est spécial, pareil, le deux poids, deux mesures là-dedans.
Hey, deux poids, deux mesures, tu dis? Calvasse.
Imagine si on avait découvert que t'avais un membre dans le convoi des camionneurs qui avait écrit quelques années avant un livre apologétique d'un régime autoritaire duquel on pensait qu'il y avait des dons qui provenaient pour le GoFundMe du convoi. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Hey, les experts de la radicalisation qui arrivent, les quetelles en l'air. Hey, c'est la preuve que ta-ta-ta.
Hey, ouais, ces gars-là là, qui passent à tout le monde en parle puis qui disent que tu es en train de se radicaliser. C'est-tu un exemple de radicalisation, ça? Non, mais tu sais, je veux dire, on applique votre grille d'analyse que vous tenez tant, là.
Ben, excuse-moi, là, mais quand t'es rendu à faire l'apologie du régime communiste chinois, t'es dans une phase, c'est de la radicalisation, là, Christy. C'est un régime autoritaire qui n'a aucun respect pour les droits humains. Regardez ce qu'ils ont fait aux Ouïghours. Il y a même des musulmans qui sont dans des camps de concentration là-bas pour essayer de les changer de religion, là, pour les convertir. Là. Ça a été documenté, ça.
Soit tu trolles, ou soit t'es brainwashé.
Ben, ça a l'air d'un affaire de famille, je te dirais. Je sais pas ce qu'ils ont, eux autres, là, mais... j'espère qu'on s'en tapera pas une autre génération. Moi, je vais capoter. Hey, on s'en va dans la partie Patreon. Il y avait encore des trucs qu'on n'avait pas eu le temps de jaser. Justement, il y a un congrès national du Parti libéral du Canada. On a aussi QS qui nous fait part de toute son hypocrisie par rapport, entre autres, à la question du climat. Celle-là est bonne.
Ça rejoint ce que je disais hier.
Faut l'avouer, celle-là est bonne. On s'en va sur Patreon.
Ça rejoint ce que je disais hier. C'est GND, yes. C'est notre voisin. On finit par griller des tomahawks avec.
Yep.